OK, ça va qu'on va continuer dans notre série sur le survol des 66 livres de la Bible. Nous sommes rendus au livre de Osée, dans la deuxième partie. Donc, avant de partir de chez nous aujourd'hui, j'ai compté le nombre de livres qui nous restait à étudier pour finir l'Ancien Testament. Il nous reste 11 livres. Dans 11 livres, on va terminer l'Ancien Testament et ensuite on va traverser le Nouveau Testament. OK, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va examiner le contenu du livre de Osée et quelques leçons morales qui sont contenues dans le livre. Alors, on va regarder d'abord le contenu du livre de Osée. Il est difficile de découvrir la structure du livre d'Osée. Même si les trois premiers chapitres suivent un plan simple, les 11 suivants ne sont pas clairement définis. Cela n'empêche pas le message d'être clair et pertinent. Dieu se sert de l'analogie du mariage pour illustrer ses relations avec le peuple élu. L'infidélité de la femme d'Osée reflète celle d'Israël. Alors, la première partie, on va regarder, c'est que le mariage d'Osée symbolise la relation de Dieu avec le peuple d'Israël. Ça part de 1-1, du premier, deuxième verset du chapitre 1 jusqu'au chapitre 3, verset 5. Alors, obéissant à Dieu, Osée prend pour femme Gomer, la fille de Diblaïm. Les trois enfants nés de cette union trouble reçoivent des noms symboliques pour souligner qu'Israël a violé son alliance avec l'Éternel. Le nom du premier est Jisréel, ce qui signifie Dieu disperse. Il évoque le grand châtiment dont Dieu frappera la nation de Jéhu à cause des actions violentes de ce roi. Lo-Ruhama, le nom de la fille d'Osée, signifie plus de pitié. Il préfigure un jugement sévère. Israël est comme une fille que son père rejette et renie. Dieu ne jettera plus un regard de compassion et d'amour sur une nation qui va de mal en pis. L'Éternel n'aura plus pitié de la maison d'Israël. C'est comme s'il disait, ton obstination est insupportable. Je ne veux plus rien savoir de toi. Le troisième enfant, un garçon, est appelé Lo-Ammi, nom qui signifie pas mon peuple. Le temps du sevrage de Lo-Ruhama, qui veut dire plus de pitié, est arrivé à son terme. La patience de Dieu est épuisée. La méchanceté d'Israël est incurable. C'est la séparation définitive. Dans le verset 9, il dit, Vous n'êtes pas mon peuple, je ne suis pas votre Dieu. Gomer, la femme d'Osée, se montre infidèle et quitte son mari à la recherche d'amant. Au péché d'adultère s'ajoute celui de la prostitution. Osée va à la recherche de sa femme et la rachète à son souteneur. Il la ramène chez lui. Après un temps de réclusion et de profonde tristesse, vient le temps du complet rétablissement. Dans l'exposé du péché horrible de Gomer, de la souffrance indicible de son mari et du jugement de Dieu contre Israël, il y a cependant place pour le triomphe de la grâce, car l'Éternel déclare Je lui donnerai la vallée d'Achor comme une porte d'espérance. Cette vallée reçut ce nom à l'époque de Josué. À cause du péché d'Achan, qui avait désobéi au commandement de Dieu et pris du butin dans la ville de Jéricho, les Israélites avaient connu la défaite devant Aï. Par cette appellation, Achor, qui signifie trouble, cette vallée servait de mémorial rappelant au peuple que le Seigneur renouvelle sa faveur après l'expiation de la faute par le châtiment du coupable. Le prophète Osée indique que le temps de trouble et de détresse d'Israël deviendra une porte d'espérance. L'Éternel agira selon sa justice et sa grâce. Il châtiera le péché, mais sa grâce triomphera. Et à partir du chapitre 4, aller jusqu'au chapitre 11, on a une série de jugements contre Israël. Alors, après les trois premiers chapitres qui traitent des ennuis domestiques d'Osée, le reste du livre n'obéit pas à un plan défini. Les thèmes se recoupent, se chevauchent, se répètent, et leur accent varie au fil de la révélation de la prophétie. Osée dénonce fidèlement le péché des Israélites, les avertit du juste jugement de Dieu, les appelle à revenir à leur Dieu et déclare qu'il y a encore de l'espérance pour la nation que Dieu aime. L'attention du lecteur passe de la scène domestique au contexte national. L'Éternel adresse une série de messages au peuple par la bouche de son serviteur. On ne sait pas si ces messages étaient oraux ou écrits, ni où chacun commence et se termine. Cette partie du livre est probablement le résumé de la prédication d'Osée pendant plus d'une quarantaine d'années, un ministère qui débute sous le règne de Jéroboam II et prend fin avant l'invasion assyrienne, la prise de la capitale Samarie et la déportation des Israélites. Le livre entrelace l'infidélité d'Israël, la juste colère de Dieu et sa grâce miséricordieuse. Quel témoignage rendu à la nature de Dieu! Dans 2 Timothée chapitre 2, verset 13, ça dit « Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Les mêmes sujets sont répétés. L'adoration du veau à Bethel, l'idolâtrie et l'immoralité. Le niveau spirituel et moral d'Israël est aussi bas que possible. Les abominations que Jéroboam I, le fils de Nébat, avait introduites se sont perpétuées et même aggravées tout au long des 150 années suivantes. Dans le chapitre 4, au verset 1 et 2, ça dit « Il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. » La corruption généralisée sévit tant parmi les sacrificateurs que parmi le peuple. Les chefs cherchent à conclure les alliances avec des nations puissantes. Dans le verset 7, verset 11, ça dit « Ils implorent l'Égypte, ils vont en Assyrie. » Les avertissements les plus solennels et les condamnations les plus sévères alternent avec les appels les plus tendres. Verset 1 du chapitre 6, « Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré. » Mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Troisième partie qui va du chapitre 12, verset 1, jusqu'au chapitre 13, verset 16. Le péché d'Israël et la colère de Dieu. À bien des égards, la troisième partie ne fait que répéter la deuxième, car elle aborde elle aussi la question du péché d'Israël et de la juste colère de Dieu. Osée veut visiblement s'assurer que les Israélites soient conscients de leurs horribles péchés. Il leur démontre que le malheur prêt à fondre sur eux est juste et inévitable à cause de la longue histoire de rébellion et de péché contre l'Éternel. C'est le châtiment divin. Ils ont volontairement abandonné les voies de leur père Jacob, poursuivre les pratiques impies des Cananéens, et ceci en dépit de la compassion et de l'amour constant de Dieu, en dépit aussi des sanctions qu'il leur a infligées pour les ramener à la raison. Mais ni les supplications d'amour, ni les douleurs de l'affliction ne ramènent le peuple de Dieu. Les Israélites persistent dans l'idolâtrie et l'immoralité. Mais à cause de sa compassion, Dieu ne permettra pas qu'il soit complètement anéanti. Il rachètera Israël, même de la mort et de l'enfer. L'Éternel réprimande plusieurs fois son peuple pour avoir recherché le secours de l'Assyrie et de l'Égypte. Il fait alliance avec l'Assyrie et on porte de l'huile en Égypte. Ces événements se sont produits sous le règne du roi Osée. Quatrième partie du livre, c'est tout le chapitre 14, le rétablissement final d'Israël. Dans les paroles qui rappellent celles du Cantique des Cantiques, le livre d'Osée se termine sur le tableau remarquable d'un peuple restauré par Dieu. Le prophète exhorte vivement Israël à faire l'expérience de la tristesse selon Dieu et à revenir à Dieu. L'Éternel donne au peuple l'assurance qu'il aura compassion de lui, qu'il réparera son infidélité et aura pour lui un amour sincère. Mais rétablir l'infidèle ne se limite pas à lui pardonner son infidélité. L'Éternel s'engage aussi à supprimer la cause de l'infidélité. Il changera le cœur des Israélites. Un nouveau principe sera à l'œuvre en eux. Verset 8 du chapitre 14. Éphraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je le regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. En 14 chapitres, Osée expose donc le péché d'Israël, révèle le jugement de Dieu et déclare le triomphe de sa grâce. Maintenant, dans la deuxième partie qu'on avait parlé, qu'on regardait le contenu, mais qu'on regardait aussi les leçons morales du livre d'Osée. Donc, une des leçons morales du livre d'Osée, c'est l'idée d'être choisi par grâce. Le mariage d'Osée avec Gomer illustre une grande vérité. Dieu n'a pas choisi Israël pour ses mérites. N'importe quel croyant de quelque nation et génération que ce soit, est redevable de la seule grâce de Dieu. L'Éternel déclare, « Il n'y a de sauveur que moi, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toutes sortes de convoitises et de voluptés, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés. » On lit ça dans Tite, chapitre 3, versets 3 à 5. « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage. » Éphésiens chapitre 2, versets 4, 5 et versets 8 et 10. Les croyants ne sont pas choisis en fonction d'un quelconque mérite. Nous sommes plus indignes d'être l'épouse de Christ que Gomer l'était de devenir la femme d'Osée. Quelque part. Les croyants sont attirés avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Quelle belle description du Sauveur, l'homme fait, qui attire les hommes à lui par les cordages de l'amour manifestés sur la croix. Deuxième leçon morale, c'est celle de la miséricorde plutôt que le sacrifice. Après sa conversion, Matthieu, appelé aussi Lévi, le collecteur d'impôts, invita ses amis pour un repas dont Jésus était l'invité d'honneur. Les pharisiens s'offusquèrent de ce que Jésus persistait à manger avec ces hommes pécheurs. Ils incitèrent les disciples à reprendre leur maître pour sa conduite. Ayant entendu leurs critiques, Jésus répondit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. » Les pharisiens dédaignaient les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Ils les chassaient et ne faisaient aucun effort pour aller vers eux et leur venir en aide. Le Seigneur leur dit qu'ils feraient bien d'apprendre la leçon qu'enseigne Osée. En citant ce prophète, le Seigneur fait davantage que de simplement appliquer un texte approprié de l'Écriture. Il met devant les pharisiens tout le message d'Osée. Les relations du prophète avec sa femme reflètent l'amour et les relations d'alliance de Dieu avec Israël, qui, précisément, est égaré et infidèle. Voici le message d'Osée qu'Osée adresse aux Israélites manifestement impies et immoraux de son temps. Dans le chapitre 4, versets 1 et 2. Il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. En offrant à Dieu des sacrifices dans ce contexte, les Israélites témoignaient d'un grand mépris pour lui. Les sacrifices ne sont pas sans importance. Ils doivent s'accompagner d'un effort soutenu du peuple de se laisser instruire par le Seigneur. Les offrandes à Dieu n'ont aucune valeur si elles ne sortissent pas d'un désir sincère d'imiter le comportement et l'attitude de Dieu. Si les pharisiens qui s'opposaient au Seigneur avaient voulu apprendre cette grande leçon, ils auraient compris ce qu'ils faisaient en passant du temps avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs. Le Seigneur cite de nouveau ce verset d'Osée quand les pharisiens reprochent à ses disciples de cueillir des épis un jour de sabbat. Il souligne ainsi de nouveau l'absence de pitié chez les pharisiens qui n'aimaient pas la miséricorde. Ils accusaient les autres et les condamnaient sans aucune compassion ni tendresse. Troisième leçon morale, c'est celle de la direction du peuple de Dieu. Le livre d'Osée jette un regard particulièrement critique sur les dirigeants religieux et politiques d'Israël. Les prophètes, les sacrificateurs et les chefs civils ont égaré le peuple. Les chefs d'Israël se sont tournés vers les autres nations pour trouver des solutions politiques au lieu de compter sur le Dieu vivant qui a constamment protégé et préservé son peuple. Bien que possédant la loi de Dieu, les Israélites ignoraient généralement son contenu et ses applications à cause de la négligence de ses chefs religieux. De nos jours, la Bible n'a peut-être jamais été aussi répandue. Et pourtant, que d'ignorance quant à son contenu. Dans leur grande majorité, les enseignants et les prédicateurs chrétiens traitent de tous les sujets, sauf du message de la parole de Dieu. Même au sein de la communauté des fidèles, il y a une pénurie de solides enseignements bibliques. On insiste beaucoup sur l'expérience, mais on constate peu d'empressement à se plonger dans l'étude qui façonne l'ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de vérité. Relativement peu nombreux sont ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. L'exercice du leadership dans l'Église de Christ est une lourde responsabilité. Chaque conducteur est chargé de veiller sur les âmes et doit rendre compte à Dieu. Le rôle des dirigeants est de perfectionner les saints en vue de l'œuvre du ministère et l'éducation du corps du Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 12. À cela s'ajoute le devoir permanent de découvrir de nouveaux leaders et enseignants potentiels. 2 Timothée chapitre 2, verset 2. Sans l'enseignement soigné et minutieux de la parole de Dieu, les gens sont flottants et emportés à tout vent de doctrine. C'est la situation qui prévaut trop souvent aujourd'hui. Quatrième leçon morale, c'est celle de ramener les égarés. L'Éternel avait repris Israël comme épouse, avait pris soin d'elle, l'avait protégée et avait pourvu à ses besoins. Il l'avait traitée avec bonté pendant de nombreuses années. Mais Israël a trop tiré sur la corde. La nation a couru après d'autres amants, d'autres dieux. Elle s'est totalement attachée à ces idoles que l'Éternel lui reproche de l'avoir oubliée. La Bible présente plusieurs illustrations sublimes dans lesquelles l'Éternel supplie les égarés de revenir à Dieu, car il veut les guérir et les restaurer. Un siècle après Josée, après Osée, le prophète Jérémie s'écriera « Revenez enfin, rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Revenez enfin, rebelles, je vous pardonnerai vos infidélités. » Le Nouveau Testament révèle cette même tendresse dans les appels lancés à ceux qui ont connu le Seigneur, mais se sont détournés de lui. La parole du Fils prodigue est peut-être la plus belle illustration des sentiments de Dieu pour l'égaré qui revient à lui. Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Il fallut que ce jeune fils parte dans un pays éloigné pour connaître les privations et le besoin avant de rentrer en lui-même. À l'époque d'Osée, les Israélites furent déportés en Assyrie où ils furent humiliés jusqu'au temps fixé pour leur rétablissement et leur guérison. L'accueil des rétrogrades est un thème qui revient constamment dans les Écritures. L'Éternel fait grâce à tous ceux qui reviennent à lui et leur accorde son pardon. Dans l'Église du Nouveau Testament, les croyants matures sont appelés à prendre soin de ceux qui tombent. Paul exhorte les Galates. « Frères, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Galates chapitre 6, verset 1. Et dernier enseignement, celui des enseignements généraux. Le livre d'Osée est très chargé d'émotions profondes. Il révèle l'ardente passion de Dieu pour son peuple. D'une part, il exprime fortement la juste colère de l'Éternel contre le péché des Israélites qui ont abandonné le Dieu vivant et vrai pour adorer les idoles. Ce paganisme s'accompagne immanquablement d'immoralité et de corruption. D'autre part, le livre souligne le contraste saisissant entre la juste colère et l'infinie tendresse de Dieu, qui aime le peuple pécheur et soupire après lui. Il suffit au peuple de revenir à lui pour que Dieu lui témoigne sa miséricorde et sa bonté. L'Éternel peut se comporter à la fois comme un lion qui déchire les méchants et les impies et les éloigne, et comme une pluie printanière bienfaisante qui apporte vie et santé à ceux qui reviennent à lui. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Il n'effacera pas les tribus rebelles des enfants d'Israël. Il les humiliera par une correction longue et sévère afin de leur faire prendre conscience de leurs fautes. Il leur conduira à la repentance pour pouvoir leur faire miséricorde. Il les sauvera de la destruction éternelle. Avec ses objectifs en point de mire, le livre d'Osée contient des menaces et des sanctions entrelacées avec des promesses de grâce. L'Éternel ne donne pas un vague espoir de jours meilleurs. Il annonce un temps de restauration et de paix éternelle. Par sa toute-puissance et sa grâce, le Seigneur délivrera finalement son peuple de la mort et de l'enfer. Trois applications. La première, méditons sur les causes de l'infidélité d'Israël. Le manque de vérité, le manque de miséricorde et le manque de connaissance de Dieu. Sacrificateurs, rois et prophètes ont donné le mauvais exemple. Le résultat, le pays est en deuil. Le peuple a sombré dans les péchés les plus abjects, l'idolâtrie, l'immoralité, la malhonnêteté, le manque de confiance en Dieu, la recherche d'aide auprès des nations au lieu de Dieu, les mensonges, les assassinats, les vols, etc. Deuxième application, prions pour que le Seigneur nous révèle avec beaucoup plus d'acuité et de profondeur son infinie sainteté et son implacable haine du péché. Implorons-le de nous sonder et de nous inspirer d'haïr le péché avec authenticité. Gardons-nous avec grand soin d'ignorer ses appels à la repentance réelle. Sachons que l'Éternel ne laisse pas le péché impuni. Troisième et dernière, réfléchissons sur l'amour et la miséricorde du Seigneur. Répondons à son amour en vivant une vie sainte et en utilisant tous les moyens de grâce qu'il a mis à notre disposition. Utilisons-les abondamment pour rester proche de lui et jouir de sa lumière, de sa protection et de ses innombrables bénédictions. Que l'Éternel soit adoré, béni et exalté à tout jamais. Amen.